Allez-y.
J'en ai une qui est plutôt favorable. Il y a une migration qui était plutôt interne, mais dont on ne parle pas, et qui était quand même massive, c'était les pieds noirs.
Ouais.
Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on a accueilli une famille dans notre chambre, dans notre salon, pendant presque un an. Hein, donc, apparemment, 2 millions de personnes, on a été capable d'intégrer 2 millions de personnes en quelques années. Donc, c'était peut-être une période plus favorable, mais n'empêche que c'était énorme. Ma deuxième réaction contradictoire, c'est par rapport à la situation de l'emploi. On sait qu'on arrive maintenant à des révolutions technologiques. Les économistes nous disent que les nouvelles révolutions technologiques qui arrivent vont supprimer beaucoup plus d'emplois qu'elles vont en créer, contrairement à d'autres révolutions technologiques qu'on a eues dans le passé. Donc la crise de l'emploi va absolument considérablement s'aggraver. Je viens d'écouter à la télé un petit reportage à propos de l'Allemagne. Il semblerait que l'Allemagne, effectivement, va être déficitaire de 6 millions de travailleurs dans les 5 ans qui viennent, ce qui ne m'étonne pas que Merkel soit favorable à accueillir autant de réfugiés, sachant est-ce qu'elle va les transformer en travailleurs bon marché, comme ça a été les travailleurs de l'Est, et casser tous les modèles sociaux européens. Donc tout ça, c'est des questions quand même fondamentales. On n'a pas de solution aujourd'hui par rapport à la crise de l'emploi. Et moi, je vois des personnes que je côtoie tous les jours qui sont au chômage depuis des années et qui, évidemment, avec leur réflexion un peu simpliste, ne sont absolument pas favorables à accueillir des réfugiés parce qu'ils se disent ce sont des gens qui vont nous passer devant et nous, on n'aura toujours pas d'emploi. Maintenant, je pense que la crise de l'emploi est tellement grave qu'on ait 24 000 réfugiés de plus ou de moins, ça ne changera pas grand-chose.
Merci. En gros, plus on réfléchit. Merci.
Merci d'introduire le débat sur ce terrain-là. Alors tout d'abord sur les pieds noirs, c'était des nationaux, donc c'était pas vraiment une migration, c'était effectivement un accueil, mais de Français, par des Français. Et donc il y a eu malgré peut-être toute une série de dissensions politiques autour de cette question, globalement un accueil favorable au retour des pieds noirs, surtout compte tenu de la situation dramatique dans laquelle ils se sont trouvés brutalement. Alors et puis c'est une période de croissance, faut pas l'oublier, c'était les 30 Glorieuses, hein, 1962, c'est le cœur des 30 Glorieuses. L'emploi, alors moi j'aurais tendance à dire que déjà 24 000, je suis d'accord avec vous, c'est quand même pas une affaire énorme dans un pays qui a 67 millions d'habitants, je crois maintenant le dernier chiffre. Donc, c'est une première chose. Deuxièmement, on est dans une économie libérale. De ce point de vue-là, on n'est pas sous le régime du cinquième plan de tel ou tel comité central du Parti communiste soviétique. Donc, les postes ne sont pas définis. On n'est pas dans un nombre prédéfini de postes d'emploi aujourd'hui. C'est la situation économique qui définit les emplois. Donc, l'emploi crée l'emploi aussi. Hein. Ça, c'est la règle de l'économie libérale. Il y a des quantités de nouveaux emplois. Il y en a beaucoup qui disparaissent, notamment dans l'industrie, parce qu'on a désindustrialisé massivement par rapport à l'Allemagne. Et effectivement, la décision de Mme Merkel peut avoir un arrière-plan démographique, économique, etc. Pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, il y a des quantités d'emplois nouveaux qui vont se développer, qui sont liés notamment au vieillissement de la population. En Italie, la question des badanti, les personnes qui gardent les personnes âgées ou les enfants, c'est un sujet crucial. On a régularisé toutes les femmes qui gardent ces personnes parce qu'elles sont indispensables au fait que la femme travaille, ce qui est maintenant le cas. C'est un secteur en pleine expansion. Le tourisme, l'Europe est la première destination. On a 1 milliard de touristes internationaux et les estimations tendent à dire qu'on aura 2 milliards de touristes à l'horizon 2050. Hein. Donc c'est colossal, c'est une ressource énorme pour l'Europe puisque la première destination touristique au monde, c'est l'Europe. Et donc ça crée des emplois. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est des emplois souvent précaires, des emplois saisonniers, mal payés, en partie au noir, etc. Mais c'est des emplois et donc il y a un besoin de ces métiers qui sont liés au tourisme de façon tout à fait cruciale. D'autre part, c'est difficile Ce que disent souvent les directeurs d'établissements scolaires qui font des emplois, qui préparent à des métiers professionnels, en fait disent que c'est très difficile finalement, parce que parfois je leur disais en visitant des établissements scolaires, pourquoi est-ce qu'on n'a pas formé tel ou tel secteur qui sont considérés comme en tension? Parce qu'ils disent en fait c'est à 10 ans d'écart entre le moment où l'enfant ou le jeune rentre dans son lycée professionnel, puis le moment où il entrera sur le marché du travail, ben, les besoins changent. Donc c'est très difficile de prévoir de façon sûre quels seront les emplois dont on aura besoin de façon très spécialisée, dans des métiers très précis, à l'échelle de 10 ans. Donc on sait que les métiers du tourisme, les métiers de la garde des personnes âgées au sens large, les médecins, et notamment les médecins en milieu rural par exemple, c'est quelque chose de crucial aujourd'hui, ça le sera encore plus demain. Aujourd'hui c'est des Roumains, des Bulgares qui font ces métiers. Les hôpitaux parisiens sont pleins de jeunes étudiants francophones de pays africains, etc., qui font l'été, les gardes de nuit, etc. Donc on est à flux tendu. Il y a des métiers qui ne sont pas pourvus, il y a des milliers de métiers qui ne sont pas pourvus parce qu'on n'a pas une adéquation entre la formation et puis la demande sur le marché du travail. Donc moi je ne suis pas trop inquiète sur l'emploi parce que toutes les études qui ont été faites là-dessus, et il y en a beaucoup, depuis 1976, la première étude d'Anicia Le Pors sur le coût avantage de l'immigration, des études sérieuses, il y en a une qui a été faite par deux économistes de l'école d'économie de Paris dans une petite collection qui s'appelle « On entend dire que », un tout petit livre. « On entend dire que l'immigration coûte cher à la France, qu'en pensent les économistes ?» Et en 120 pages, il démontre que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte et aussi vient alimenter le marché du travail, est un élément de dynamisme sur le marché du travail. Donc je ne pense pas qu'on puisse s'inquiéter de l'arrivée de ces nouveaux arrivants. Souvent, eux-mêmes sont des gens qui sont des entrepreneurs d'eux-mêmes, donc extrêmement dynamiques, malgré contre vents et marées, si j'ose dire, pour se sortir de situations très difficiles. Déjà, le fait d'entrer est une prouesse, mais ensuite vivre sur le marché du travail européen en est une autre, mais dans l'ensemble ce sont des gens qui ont un vrai capital entrepreneurial pour leur projet migratoire. Donc là-dessus je ne suis pas trop inquiète.
Je voulais poser une question qui allait dans le même sens que cette personne, c'était justement la question de l'emploi. Et je dirais, à l'heure actuelle, il y a d'un côté les valeurs, d'autre côté le populisme. On a l'impression qu'on choisit entre les deux, et puis finalement le choix il est beaucoup plus du côté du populisme, et ça marche pas mal. Alors après, il y a la question de l'emploi, c'est des gens qui seraient ni dans le populisme ni dans les valeurs, il y en a beaucoup. Alors l'emploi, ben, vous répondez de manière assez simple, et j'entends ce que vous dites, d'ailleurs vous l'aviez déjà développé la dernière fois, et ça m'avait interpellé, parce que je n'abordais pas les choses comme ça. Et je dirais, vous ne m'avez pas convaincu, c'est pas que j'entends pas ce que vous dites, mais en même temps, on dirait, si on veut tourner les choses simplement, on dit, bah, il y a tellement de chômeurs qui restent chômeurs, et puis vous vous dites, dans le fond, il y a des migrants qui vont venir, et voilà, bah, ces migrants, ça paraît contradictoire d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on voit que l'emploi n'avance pas, pourquoi, je ne sais pas, et en même temps, bah, il faudrait accueillir et ce n'est pas vraiment un problème. Et là, je pense qu'il y a énormément de choses qui se jouent, parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas désengagés ni du côté des valeurs, ni du côté du populisme, et qui, sur un plan un peu pragmatique, disent bah, ouais, on ne peut pas. Voilà, ils disent un peu comme ça, on ne peut pas, et voilà. Et puis après, bah, on ferme les yeux, on ferme les oreilles, et puis on passe à autre chose.
Très bien, merci de continuer sur ce débat, parce qu'effectivement, c'est un débat qui est très fortement abordé du côté des... du front du refus, si j'ose dire, notamment ceux qui sont hostiles à l'immigration et aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, on est dans un contexte européen de, quelles que soient les situations, plus ou moins prospères, plus ou moins critiques des pays européens, de très forte segmentation du marché du travail. C'est une des raisons d'ailleurs du chômage. Le marché du travail est extrêmement segmenté, et donc les gens ils postulent à tel ou tel poste, mais pas à tel autre, et l'adaptabilité n'est pas toujours très grande. Et cette segmentation du marché du travail fait que, depuis, pas aujourd'hui, depuis très longtemps, 20 ans, 30 ans, les migrants sont rarement, surtout les nouveaux arrivants, sont rarement les concurrents sur le marché du travail de ceux qui sont déjà là. D'une part parce qu'une partie d'entre eux, malheureusement pour eux, sont précaires, donc ils vont accepter des postes, effectivement, je suis d'accord avec vous, très mal payés ou noirs, où ils sont exploités, etc. Mais ils vont entrer sur le marché du travail. Ensuite, espérons pour eux qu'ils se feront régulariser et qu'ils pourront entrer dans un système plus normal en termes de salaire. Mais souvent, ils ne sont pas candidats sur les mêmes postes que les gens qui sont là, que les enfants d'immigrés, que ceux qui sont les Français qui cherchent du travail, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de... C'est très rare qu'il y ait une concurrence. Très, très rare. Sauf pour les très qualifiés, éventuellement. Là, il y a une concurrence sur le marché du travail, mais pour les autres, non, parce que la segmentation est telle que, en fait, les migrants ne sont pas, les nouveaux arrivants ne sont pas candidats sur les mêmes postes que ceux qui cherchent du travail et qui sont déjà là pour l'essentiel. Et ça, c'est une règle qui existe pour presque quasiment tous les pays européens. Je ne pense pas qu'on puisse considérer que les migrants nouveaux sont des concurrents à ceux qui sont au chômage. Parce qu'il y a des logiques qui se sont installées, des profils qui se sont construits, y compris dans un chômage de longue durée, qui sont très différents des profils des migrants. D'autant plus que beaucoup de ces migrants, contrairement à une idée reçue, sont des gens qualifiés. Il y a des quantités d'études qui ont été faites, par exemple, un de mes collègues, Smaïn Lacher, qui enseigne à Strasbourg, a fait une étude, plusieurs études sur Sangatte et Calais, et il dit que beaucoup sont des gens qualifiés. Qui ont un diplôme de haut niveau, qui ont une maîtrise dans leur pays d'origine, qui parlent anglais, qui savent très bien dans quel secteur ils vont s'insérer, même si au début ils vont être déqualifiés. Mais beaucoup, et mais chez les Syriens aussi, c'est pas par hasard qu'on a pris les Syriens. Les Syriens sont des gens bien formés, donc il y a un intérêt aussi, hein, à travers, il y a un tri. Qui a été fait, si j'ose dire, non dit, mais un tri. On est sûrement gagnant en prenant ces gens formés, bien scolarisés, qualifiés, et l'Allemagne ne s'y est pas trompée en disant qu'elle allait les accueillir, c'est clair.
Il y a des demandes là.
Bonsoir. Moi, je voudrais juste faire part de ce que je vis depuis 4 ans, puisque je suis au milieu d'à peu près 1,6 million de réfugiés syriens, même si le ratio n'est pas le même, puisque je suis dans un pays où il n'y a que 4 millions d'habitants. Moi, j'ai des constats que je fais depuis 4 ans. On n'est pas dans la même proportion, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une vingtaine de mille de personnes, sur 60 et quelques millions. Mais je voudrais savoir... Comment vous allez répondre, si demain on continue l'intégration de ces migrants, comment vous allez répondre aux problèmes que vous allez rencontrer, que nous on rencontre depuis 4 ans. Je suis française expatriée, excusez-moi, je précise.
Au Liban. Alors, le Liban a fait beaucoup, merci de poser la question. Le Liban a fait beaucoup.
Je vais juste vous interrompre, le Liban n'a absolument rien fait.
Bah si, il y a 1 million de...
Non, madame, les Nations Unies ont fait, oui. L'Union Européenne a fait, DRC, NRC, Save Children, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, etc. Le Liban n'a absolument rien fait.
Enfin, ils sont au Liban quand même,
ces gens. Ils ont accepté sur le terrain.
Ils sont sur le territoire libanais quand même.
Oui, mais le Liban n'a absolument
rien fait. Oui, le gouvernement, non. D'accord. Enfin, il y a beaucoup de structures qui sont sur place et ils sont quand même sur le territoire. On ne leur a pas fermé les frontières, ils ne sont pas morts en arrivant. Voilà.
C'est à travers les montagnes et c'est très facile de passer. Et le Liban n'est pas pourvu d'une armée assez forte ou d'une police pour pouvoir arrêter cette vague.
Enfin, toujours est-il que...
Ils n'ont pas besoin de visa pour venir au Liban.
Toujours est-il que le Liban, qui a vécu des quantités de situations dramatiques dans le passé, a sur son territoire à peu près 1,2 million, sans doute un peu plus, 1,5 million Syriens notamment. La situation est critique, vraisemblablement, puisqu'en fait là, ça risque de déstabiliser un pays qui a une faible population. Donc la situation est tout à fait différente de celle qu'on a ici, surtout dans un pays qui a un équilibre religieux extrêmement fragile. Et là, effectivement, on peut craindre pour l'État lui-même que cette présence massive puisse être un facteur de déstabilisation à tous égards du pays, mais on n'est pas du tout là-dedans. La Turquie a fait beaucoup aussi, hein. Je ne sais pas si c'est les associations humanitaires. Je suis allée en Turquie au printemps dernier, dans les rues d'Istanbul, les gens campaient, il y avait des douches qui avaient été installées par la ville d'Istanbul, il y avait des campements, etc. Donc il y a à peu près 2 millions de Syriens qui sont aujourd'hui en Turquie. Que dirait-on en France si on avait 2 millions de Syriens qui étaient arrivés chez nous? On hurle pour 24 000, il y a toute une série de débats autour de ça, on dit c'est formidable, on est très bien, on est solidaire. 2 millions en Turquie, c'est quand même tout à fait autre chose, même si c'est un grand pays, très peuplé, etc. Donc là aussi, je pense qu'il faut, voir les choses dans leur proportion, mais je ne pense pas, malgré tout, que d'une part, que tous ces Syriens vont rester... si la situation s'améliore, ce qu'on peut espérer sur le moyen terme, comme ça a été le cas d'ailleurs pour les Chiliens et pour d'autres flux comme, de réfugiés qu'on a eu dans le passé, notamment les gens de l'ex-Yougoslavie, la moitié sont repartis chez eux. Et on peut y envisager, on peut imaginer, surtout que ce sont des classes moyennes, des familles, les Syriens, pour la plupart, ce sont des gens qui ont un intérêt à rentrer chez eux si ça s'améliore. Donc on peut imaginer que si dans quelques années, au bout de 4-5 ans, on a une amélioration dans la région, qu'ils rentrent chez eux. C'est pour ça qu'on n'est pas dans une situation figée. On n'est plus du tout pour les réfugiés dans la situation de la guerre froide, de la Convention de Genève. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un départ définitif. Parce qu'à l'époque, on pensait que le communisme serait définitif à l'Est et qu'on serait dans une bipolarité qui gouvernerait le monde pendant peut-être un siècle. Il se trouve que fort heureusement, on en est sorti et qu'aujourd'hui, la plupart des conflits qu'on a eus, même les très longs, comme le Sri Lanka, comme Haïti, comme la crise yougoslave, comme la crise algérienne, comme beaucoup d'autres, eh bien, se sont dénoués et qu'une partie des gens sont repartis chez eux. Une partie, pas tous, il y en a qui s'insèrent, etc. Puis il y en a qui préfèrent repartir. Et donc, je pense que pour la crise syrienne, je ne sais pas si on a atteint un pic aujourd'hui avec les 6 millions de personnes qui ont quitté leur domicile, mais ce que je peux dire, c'est qu'il est vraisemblable qu'une partie d'entre eux repartent ensuite et que donc, j'espère pour le Liban, entre autres, et pour les structures qui sont sur place, une partie d'entre eux ne resteront pas sur le territoire libanais.
Il faut juste terminer. C'est que les gens qui étaient des chefs d'entreprise, les gens qui étaient des hauts diplômés ou hauts cadres, donc les médecins, les avocats, etc., toutes les professions libérales, sont déjà partis de Syrie depuis longtemps. Pour la plupart, ils sont passés par le Liban, ont loué des appartements, ils avaient les moyens pendant un an. Il y en a même certains qui ont passé des mois dans des 4-5 étoiles sans problème, en attendant de pouvoir rejoindre le reste de la famille ou d'avoir un visa de travail. Donc je ne suis pas sûre qu'à l'heure d'aujourd'hui, sachant qu'en plus, derrière, on a eu la BAC, on a eu au Liban, en Jordanie, absolument, en Turquie, etc. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui vont arriver fassent partie des classes moyennes.
Madame, est-ce que vous pouvez lire votre
paye avec l'argent. Je vais vous le dire.
Vous avez une question?
Oui.
Oui, mais je voudrais terminer. Je n'ai pas réussi à terminer. Ah bah,
non, on aimerait simplement comprendre votre question, on sent une inquiétude très forte.
Non, mais oui, mais pour pouvoir poser ma question, il faut que je m'exprime, monsieur.
Bon, on va laisser du temps à la dame pour poser sa question.
Non, je voudrais juste répondre que, mais ça, ça allait de soi, si j'ose dire, malheureusement, le droit d'émigrer est le droit le plus mal partagé au monde. Les riches des pays pauvres peuvent toujours circuler. Soit ils entrent dans les catégories légales de la migration, soit ils ont d'autres possibilités de contournement plus ou moins légales, alors que les autres sont beaucoup plus mal placés pour le droit d'émigrer, notamment l'inégalité qui existe au monde selon la possibilité d'avoir un visa ou pas pour circuler hors de chez soi est extrêmement mal partagée. Si on est danois, on peut circuler dans 164 pays sans visa. Si on est africain d'un pays en guerre, on ne peut quasiment pas sortir de chez soi. Donc c'est un des droits les plus inégaux au monde, aujourd'hui au 21e siècle, pour répondre à ce qui a été dit.
Juste un petit mot, excusez-moi. Pour les micros, pour demander les micros, il y a une personne ici une autre personne là-bas. Voilà. Donc, ne nous demandez pas, ne levez pas la main désespérément, essayez de vous faire voir déjà
par ceux qui portent les micros.
Hein. Si. Voilà.
Il a le micro aussi.
Ouais. Vous l'avez. Voilà, je vous en prie.
D'abord, moi, je voudrais vous remercier pour la clarté de votre exposé et pour les éléments de contexte que vous avez apportés. Et dans votre exposé, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris et j'aimerais simplement revenir là-dessus. Vous dites qu'il ne faut pas avoir peur de l'appel d'air qu'on risque de provoquer en acceptant plus de demandeurs d'asile. Mm-hmm. Et en même temps, vous dites que l'immigration, c'est un phénomène qui va durer. Mm-hmm. Et les migrants cherchent à rejoindre les familles, donc des gens qui ont migré avant eux, qui sont déjà installés dans un pays. Et quelque part, moi, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris dans votre raisonnement, parce que j'ai l'impression que les gens qui ont été acceptés dans un pays vont appeler le reste de leur famille à les rejoindre. C'était simplement la petite question.
Merci. Alors, sur l'appel d'air, ça fait partie des discours, des politiques publiques, comme on dit, très fréquents. Moi, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, même très longtemps, je n'ai jamais vu vraiment d'appel d'air. C'est-à-dire que l'idée que si on est un peu plus généreux, il y aura plus de gens qui viendront, qui vont s'engouffrer dans telle opportunité, très franchement, je ne suis pas la seule, hein, la plupart de mes collègues sont dans la même situation, je n'ai jamais vu d'appel d'air. Parce que pour migrer, il faut énormément de compétences, il faut de l'argent déjà. Les plus pauvres ne partent jamais. Aujourd'hui, ceux qui sont sur les routes du monde, ce n'est pas les plus pauvres. Hein. Les plus pauvres, ils n'ont pas le choix, ils restent. Premier constat. Deuxièmement, il faut mobiliser pas seulement de l'argent, mais un savoir-faire, connaître des gens, des réseaux, parler éventuellement d'autres langues que celles qu'on parle chez soi, etc. Donc, ce sont les plus audacieux qui partent, pour l'essentiel. On a une sélection qui se fait de ce point de vue-là. On n'est pas dans une sorte de goulot d'étranglement où viendrait tout un chacun indifféremment. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'appel d'air ? Parce que la migration, malgré toutes les inégalités du monde, elle est très faible à l'échelle mondiale. Hein. 3,2% de la population mondiale en situation de migration, réfugiés inclus, 3,2%, en incluant aussi les déplacés environnementaux qui sont autour de 40 millions et les 60 millions de migrations forcées qui appartiennent plus ou moins à la catégorie des réfugiés. Donc c'est très peu, parce qu'il y a une sélection qui se fait. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxièmement, les capacités légales de bénéficier des réseaux qu'on a à l'étranger sont limités. Le regroupement familial est extrêmement contraint. Il y a des critères sans cesse plus sévères qui ont été édictés pour bénéficier précisément du regroupement familial, c'est-à-dire de la capacité de rejoindre des gens proches de la famille, etc. Aujourd'hui, il faut que ce soit la famille nucléaire, dans la plupart des pays européens. Il faut que les enfants n'aient pas atteint l'âge de la majorité, et même moins d'ailleurs. Il faut avoir une surface de logement suffisante, un salaire stable et suffisant, etc. Les critères n'ont cessé d'être durcis. Donc, même si on a des connaissances à l'étranger, c'est pas... L'appel d'air, il est très très limité par le droit, et notamment par le droit au regroupement familial. D'autre part, on est dans une situation particulière en Europe, mais aussi aux États-Unis, puisque ce serait intéressant d'en dire un mot. En fait, contrairement à une idée répandue, aujourd'hui, c'est intéressant de placer la migration sur le volet économique, mais l'essentiel des migrants des grandes régions d'immigration du monde, que sont l'Europe, les États-Unis, le Canada... ne sont pas majoritairement des migrations de travail. Et ça, c'est nouveau aussi. Hein. Le gros du bataillon, si j'ose dire, c'est le regroupement familial, c'est les étudiants, c'est les réfugiés au sens large, c'est d'autres catégories de gens. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ceux qui entrent, c'est des gens qui ont le droit d'entrer pour l'essentiel, hein. Le regroupement familial, le droit d'asile, les étudiants, les migrations intra-régionales qui souvent ont une facilité d'exemption de visa, etc. On n'est plus du tout dans la migration de travail des années 60, 70, et même pour les États-Unis, ça s'est prolongé longtemps, même si beaucoup viennent pour travailler. Ceux qui entrent légalement, un pays comme les États-Unis, quand même, première puissance mondiale, ce qui entre légalement, le droit de l'immigration aux États-Unis, il est fondé essentiellement sur le regroupement familial. Ça peut paraître tout à fait paradoxal, mais c'est la réalité. Donc pour contourner le phénomène et pour avoir des gens très qualifiés qu'ils souhaitent, ils ont introduit le visa que certains d'entre vous ont peut-être eu, le visa H1B. Le visa H1B, c'est une façon de contourner un système, un pays de peuplement, où on vote au Congrès chaque année à peu près 800 000 entrées légales, et l'essentiel de ces entrées légales, c'est du regroupement familial. Alors comment faire autrement? On tire au sort dans les consulats des cartes vertes, on met des visas pour les gens très qualifiés qui veulent entrer aux États-Unis, etc. Pareil au Canada. Au Canada, on a un système d'immigration, de permis à points. Donc l'idée, c'est de ne pas tenir compte du marché du travail, c'est de tenir compte du fait qu'on va intégrer des futurs citoyens et on veut des gens qui a un certain niveau de qualification. Donc en fait, les critères, c'est bien sûr l'âge, la langue parlée, le niveau d'études, l'insertion professionnelle préalable, etc. Même si la plupart de ces gens n'entreront pas sur le marché du travail dans ces qualifications-là. Il y a une blague au Canada qui consiste à dire si vous avez besoin d'un médecin généraliste, appelez un taxi. C'est parce qu'il y a énormément de chauffeurs de taxi qui sont médecins. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais donc, la première génération est un peu gaspillée au point de vue. Et il y a un gaspillage énorme, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais en termes de qualification, notamment avec les demandeurs d'asile, il y a plein de gens très qualifiés ou semi-qualifiés qu'on n'exploite pas parce qu'on pense réfugiés, on ne pense pas marché du travail. En France, ils n'ont pas le droit de travailler, il ne faut pas l'oublier, au moins pendant le début de la procédure. Et dans beaucoup de pays européens, c'est comme ça. Dans certains pays, c'est plus rapide. Mais on pense en termes de silos. C'est-à-dire, d'un côté, on a la catégorie réfugiés, de l'autre côté, on a la catégorie travailleurs, de l'autre côté, on a le regroupement familial. Souvent, c'est les mêmes gens, hein, mais on ne fait pas le lien. Et donc, les politiques migratoires sont souvent inadaptées, complètement inadaptées à ces flux. Et les grands pays d'immigration du monde, même l'Australie, avec ses permis à points, qui ont une économie ultra-libérale, n'ont pas la politique d'immigration qui correspond à cette approche. Ils ont surtout une approche soit d'immigration de peuplement fondée sur des liens familiaux comme aux États-Unis, soit sur des critères de qualification. Et en Europe, on n'est pas du tout outillé non plus pour avoir une politique migratoire fermée ou adaptée au marché du travail, puisque l'immigration de travail a été fermée depuis 1974 pour le gros des travailleurs. Et pour le reste, on a commencé à entrouvrir très, très, très frileusement depuis 2000, plutôt 2005, dans les pays européens, livre vert européen, et on ne répond pas du tout aux besoins du marché du travail. C'est pourquoi on a tant de sans-papiers, d'ailleurs, qui travaillent au noir, parce que les besoins sont très supérieurs à ce qui est possible légalement en termes d'insertion, puisque l'essentiel des nouveaux entrants, ce n'est pas des travailleurs.
Oui, je voulais poser la question pour nous qui viennent et pour poser la question dans lui qui a créé les armes pour aller vendre dans notre pays étranger. Alors je voulais pour savoir la conséquence, c'est que lui qui est arrivé, en fait c'est lui qui a créé la guerre.
Mais où?
Pour les gens qui créent la guerre, pour fabriquer les armes, pour aller vendre dans un pays étranger que la guerre fait. Alors je voulais savoir la conséquence, c'est lui qui est arrivé en ces sols. Ok, c'est lui qui a créé les armes.
C'est lui, le marchand d'armes.
Ah, le marchand d'armes, oui. Ah, c'est une question complexe, mais une partie des flux, des crises qui nous entourent sont en partie des résultats des révolutions arabes de 2011, c'est-à-dire qui ont mal tourné. C'est le cas de la Libye aujourd'hui, qui était un pays très militarisé, donc qui filtrait aussi. Pourquoi est-ce qu'on a tant de gens qui arrivent de l'Afrique subsaharienne? Parce que la Libye étaient payées par plusieurs pays européens, dont l'Italie, dont la France, pour garder chez elles, filtrer, si j'ose dire, les personnes qui se proposaient de venir en Europe. Comme c'était un pays très militarisé, et bien comme les armes, comme dans le chaos qui a suivi la chute de M. Kadhafi, les rebelles, si j'ose dire, se sont islamistes, se sont emparés d'une partie des armes, donc maintenant ils sont armés, et la situation est très difficile à démêler, entre d'un côté un État qui a énormément de mal à exister, notamment à équilibrer les deux grandes régions de la Libye, qui sont la Tripolitaine et la Cyrénaïque, mais aussi au sud monte l'extrémisme radical armé, et donc ça crée une situation invivable pour les populations, et ça bloque une partie de l'économie. L'économie qui est fondée dans une population faible, avec beaucoup de ressources de gaz et de pétrole, bah, les Africains subsahariens qui venaient en Libye pour travailler parfois se retrouvent sans possibilité de travailler, donc ils se disent ben, on va continuer plus loin, on a gagné un peu d'argent donc on peut payer des passeurs et on va continuer plus loin en traversant la Méditerranée. Donc une partie des morts en Méditerranée subsaharien sont des gens qui avaient travaillé en Libye, qui se trouvent très discriminés actuellement dans la situation de chaos qui existe en Libye, qui n'ont plus de travail, qui ont un peu d'argent, qui peuvent payer des passeurs et qui tentent l'aventure de la traversée de la Méditerranée. Ça, c'est pour la Libye. Pour la Syrie, c'est encore une autre situation. C'est une population qui est prise en tenaille entre deux tendances très différentes. D'un côté, un régime qui a tué une partie de son peuple, il faut dire les choses comme elles sont, le régime de Deir al-Assad, qui est une dictature qui existait déjà du temps du père de l'actuel dirigeant, et de l'autre côté, la montée de l'islamisme radical, qui est donc une réaction à cette situation, mais qui aussi crée l'insécurité pour la vie quotidienne des populations. Donc les gens qui partent, c'est à la fois des gens qui fuient l'autoritarisme meurtrier du chef de l'État, et de l'autre côté, l'islamisme radical armé qui existe dans le pays. En Libye, c'est encore une autre situation, c'est le fait que l'invasion américaine a eu pour effet de renverser le pouvoir de Saddam Hussein, et donc de mettre au pouvoir, oui, en Irak plutôt, en Irak, et donc le régime qui reposait sur une population sunnite au pouvoir a été renversé, et donc au pouvoir les Américains ont aidé à mettre des chiites, donc l'essentiel de l'infrastructure administrative et militaire est allé du côté des opposants, qui sont très bien équipés en pétrole, mais qui sont très bien équipés en cerveau et en militaire, etc., pour pouvoir résister à la fragilité du régime politique en place actuellement en Irak. Donc c'est des situations qui sont différentes dans chacun des États, mais c'est à la fois les conséquences de la politique américaine et européenne qui a été menée dans cette région, l'Afghanistan par exemple. L'Afghanistan, 6 millions de départs, c'est le résultat des invasions successives de l'Afghanistan, d'abord par les Russes, puis ensuite par les Américains. Et donc, dans les autres situations, c'est l'effet des révolutions arabes qui ont mal tourné, avec des régimes qui se sont maintenus, des situations de guerre civile, etc. Et donc, ça crée la situation actuelle.
Bonsoir à tout le monde, et merci pour votre exposé, vos réponses d'ailleurs. Moi, je voudrais juste réagir à deux, trois choses que j'ai entendues, puis finir par une question. Alors aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on est humaniste ou pragmatique, ou les deux à la fois, on n'a pas le choix quoi. Vous avez bien parlé de la stratégie de la dissuasion qui n'a pas marché, et effectivement, alors qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, on a fermé les frontières, on a mis des barbelés, on leur tire dessus, on fait tout, ils viennent quand même. Donc on fait quoi? Soyons pragmatiques ou humanistes. Donc il faut prendre ça en considération. Après, la deuxième chose, c'est sur le nombre de personnes qui viennent en Europe. Là-dessus, vous l'avez dit, mais moi je tiens à le redire quand j'entends la dame qui a parlé du Liban. Oui, au Liban, c'est plus d'un million de personnes. En Turquie, malgré la crise en Turquie, c'est, je sais pas, 2 millions. Mais 2 millions. Mais c'est encore pire dans les pays juste autour. Hein, ça, on n'a pas les chiffres, mais la majorité des réfugiés ne viennent pas ni en Turquie ni au Liban. Ceux qui arrivent déjà là, ils ont la chance. Ceux qui arrivent en Europe sont des privilégiés. La majorité, ils sont autour et les conditions, on n'en entend même pas parler.
Ça, c'est les camps. Ce sont les camps.
Une dernière remarque, après j'ai une question sur l'emploi. Sur l'emploi, il faut arrêter. Arrêtez aujourd'hui de mettre immigration, réfugiés, ce que vous voulez, migrants, en rapport avec l'emploi. On a bien vu que la France a fermé ses frontières de façon draconienne depuis je ne sais pas combien de temps. Vous voyez bien qu'il y a 100 000 personnes qui rentrent en France, qui sont la plupart qui rentrent par le regroupement familial. On a bien vu que le chômage, pour autant, il n'y a plus d'étrangers qui viennent en France, le chômage, pour autant, il n'a pas baissé. Il n'y a pas de relation. Par contre, on a des infirmières espagnoles en France, on n'arrive pas à avoir des infirmières en France. Par contre, on n'a pas assez de médecins en France et on a des médecins étrangers qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas reconnus, qui bossent comme des esclaves, etc. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas lier immigration et emploi, on le saurait s'il y avait un lien direct. Et puis, les chiffres, ils sont clairs. Hein. 1 million au Liban, 2 millions en Turquie, bon, chez nous, c'est pas. Alors maintenant, moi, ma question, c'est la suivante. Allons de l'avant, aujourd'hui. On est nombreux ici à nous battre pour cette histoire depuis des années. Il se trouve que pour certains, et pour beaucoup, cette image de ce petit garçon mort sur la plage a déclenché quelque chose. Et bien tant mieux. Il y a une brèche qui a été ouverte. Moi mon problème en venant aujourd'hui, ce soir, c'est comment on fait pour que cette brèche, elle ne se referme pas. Parce que moi j'ai l'habitude, hein, les émotions, je suis Charlie. Je suis Eliane, le petit garçon, et puis hop, en troisième, on n'entend plus parler de rien. Aujourd'hui, il y a une brèche qui s'est ouverte, le gouvernement, tout d'un coup, se réveille. On ne va pas dire qu'il a toujours été en avance sur cette question-là. Aujourd'hui, le Premier ministre a quand même convoqué tous les maires, ça s'est passé aujourd'hui, hein, qui étaient prêts à accueillir, il y a une réunion aujourd'hui des maires, qui étaient prêts à accueillir les réfugiés. Comment nous, les militants et les associations qui travaillons là-dessus comme des malades sans moyens, on se met dans cette brèche, ça c'est une chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on répond au maire de Colmar qui s'est exprimé dans la presse aujourd'hui, au maire de Mulhouse qui s'est exprimé aussi dans la presse aujourd'hui et qui va nous dire, peut-être à juste titre, moi à Mulhouse, j'ai tous les centres d'accueil du Haut-Rhin, j'en fais assez, j'en veux pas plus. Qu'est-ce qu'on répond et moi j'ai une troisième question. Qui est très très importante. À Strasbourg, ils font un super truc, ils accueillent, mais Strasbourg, c'est comme une autre. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont pour moi des migrants et même des réfugiés, des boutés du droit d'asile, et qui dorment dans la rue aujourd'hui, et qui n'ont droit à rien. Alors, moi, je ne suis pas pour qu'on mette l'un contre l'autre, je suis pour qu'on fasse une priorité, je veux dire clairement, avec des gens qui sont menacés de mort. Hein, voilà, quand on quitte son pays, parce qu'on va crever. Mais je ne suis pas pour qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. Et qu'on ne laisse pas tomber tous ceux-là qui sont à Strasbourg, à Mulhouse aujourd'hui, pour lesquels on cherche sans arrêt de quoi leur donner 1 euro pour manger ou une chambre pour dormir. Voilà, donc moi j'aimerais qu'on aille de l'avant ce soir, et on ne va pas tout décider, mais comment on fait pour continuer, surtout que cette brèche reste ouverte, qu'on en profite, parce que si nous on ne fait rien, eux ils vont la fermer très vite.
Merci beaucoup pour cette très très bonne question. Je pense que vous êtes suffisamment nombreux et diversifiés dans vos militantismes, aussi bien associatifs que politiques ou religieux, pour pouvoir essayer d'accompagner le mouvement. Je pense qu'accompagner déjà le mouvement, c'est très important, et puis alerter les pouvoirs publics sur le fait que, bien sûr, on va accueillir des nouveaux qui viennent de Syrie, etc., mais qu'il y en a beaucoup qui sont en France. On a un taux d'acceptation des demandeurs d'asile qui est autour de 35%, toute procédure confondue et accumulée. En Allemagne, on est autour de 45%. Comment faire pour qu'il y ait plus de gens qui soient considérés comme réfugiés? Donc là, je pense qu'il faut se mobiliser, il faut manifester, il faut écrire, il faut accompagner cette idée qu'on ne va pas, parce que d'autres arrivent, abandonner les autres pour lesquels on s'est battu pendant l'ensemble de leur procédure et qui se retrouvent sans rien. Donc ça, je crois que c'est un travail que doivent se fixer les associations dans les semaines qui arrivent aujourd'hui, en disant on est content qu'enfin il y ait une lueur d'espoir sur la fin de la politique de dissuasion pour tous, mais il faut aussi réfléchir à ceux qui dans le passé en ont été victimes et qui n'ont pas de solution à leur situation. Ça, je pense que c'est indispensable. Et puis, réfléchir peut-être à d'autres formes d'accueil. Il n'y a pas que l'accueil public ou semi-public. Je pense que d'autres initiatives, comme c'est le cas d'ailleurs en Allemagne, privées et autres, peuvent être une solution d'accueil, surtout pour un niveau local, micro-local, si j'ose dire, pour soutenir ce grand élan de solidarité. Plus la solidarité sera pas uniquement concentrée dans des grandes municipalités, mais sera diffuse avec des petits effectifs, plus l'ensemble de la population sans doute peut-être changera de mentalité en la matière. Parce que le vrai sujet, c'est de convaincre. C'est de changer de mentalité. Alors ce soir, on est tous convaincus. Il faut convaincre les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas là ce soir. Ça, c'est le plus difficile. Moi, je le sais parce que je fais beaucoup de débats associatifs et je pense toujours, ben là, ça va être sympathique, je vais rencontrer des gens avec qui je suis en phase, etc. Malgré les diversités de sensibilité, mais toujours dans le sens de l'accompagnement de ces sujets. Mais tous les autres. Et ça, c'est difficile, mais ça, vous pouvez le faire aussi dans votre vie, quotidienne. Il y a tout un travail de conviction à emporter pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une diffusion de cette solidarité dans des courants divers. Ça, c'est une deuxième tâche. La première tâche, signaler les autres, notamment au pouvoir public. Et puis, deuxième tâche, essayer de faire en sorte qu'on convainque beaucoup plus largement qu'on ne le fait autour de ce sujet sensible qui va nous accompagner tout au long du siècle. Et si on a une attitude de repli, on est fichu, si j'ose dire, en la matière. Merci en tous les cas de cette question.
Oui, bonsoir. Donc moi, j'ai une petite réflexion par rapport à ce que la dame qui fait de l'humanitaire au Liban avait avancé. Donc je pense qu'elle est partie, c'est un petit peu dommage. Je salue son enthousiasme pour cet aspect humanitaire, mais là elle est allée un petit peu fort vis-à-vis du gouvernement libanais. Donc je pense, d'après mon accent, vous avez reconnu, je suis libanais, donc je ne suis pas sûr que le gouvernement libanais n'a rien fait pour les réfugiés syriens. Donc, il y a un an et un mois, dans un village dans la Beka, il y a eu un enlèvement de gendarmes, de plusieurs gendarmes, dans une gendarmerie, dans un village qui accueillait un camp de réfugiés. Il faut savoir aussi que le gouvernement libanais a décidé d'appliquer les accords entre les deux pays et laisser entrer librement les Syriens, les ressortissants syriens. Donc il n'y a pas de camp de réfugiés au Liban. Donc les gens sont libres de leur déplacement comme ils le veulent. Donc j'étais au mois de juillet, août dernier, et j'ai pu constater ça de moi-même. Donc il ne faut pas oublier, donc moi je vis en France depuis plus de 25 ans, et tous les ans, le 11 novembre et le 8 mai, et ça fait des générations maintenant, pour la première guerre, plus de 100 ans, et pour la deuxième, il y a des gens qui sont très anciens, et on n'a pas oublié ce que a fait l'Allemagne pour la France ou contre la France pendant les deux guerres. Je voudrais aussi rappeler l'Assemblée que les Syriens, l'armée syrienne qui sans doute aujourd'hui est en train de se battre entre elles-mêmes, parce qu'il y a ceux qui sont avec le régime et ceux qui sont contre, donc c'est eux-mêmes, ou 40 000 parmi eux, occupaient le Liban. Et ça ne fait pas 10 ans et 3 mois qu'ils se sont retirés. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ça ne fait pas un siècle. Ça ne fait pas depuis 1945. Ça fait depuis 2005, avril 2005. Donc que les Libanais, et y compris le gouvernement, que vous connaissez bien naturellement, qui est formé de toutes les religions et factions. Et il ne faut pas oublier aussi que les deux belligérants syriens empêchent depuis 15 mois l'élection d'un président au Liban. Donc la Syrie est toujours influente au Liban. Donc il y a 15 mois, le mandat du président a terminé et il n'y a pas eu de renouvellement. Donc moi, je salue l'enthousiasme de cette dame. Mais j'aimerais aussi, donc je suis content d'avoir pu avoir cette intervention pour apporter un peu d'éclaircissement sur cet aspect-là. Donc maintenant, je voudrais poser une question, parce que quand vous avez fait la présentation et différencier entre migrants et réfugiés, vous avez, de la part de votre présentation, donner plus de facilité, apparemment, de la part de la loi et de la réglementation, pour quelqu'un qui est persécuté, plutôt que quelqu'un qui vit mal sa vie. Et donc, on le sait, tous ceux qui réfléchissent un petit peu, on sait qu'aujourd'hui, les familles qui partent, c'est pour éviter une situation. Ce ne sont pas eux qui font la guerre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui font la guerre, qui quittent la Syrie. Donc, d'après cette définition, si dans un an, la guerre va s'arrêter, quelqu'un qui arrive en France ou dans un autre pays qui dit « Moi, j'étais officier dans l'armée de Bachar », il va avoir plus de facilité d'avoir de l'asile. Ou quelqu'un qui dit « Moi, j'ai combattu dans les rangs de Daesh puisqu'il est persécuté. » Donc, il ne va pas pouvoir vivre dans son pays. Il va avoir plus de facilité. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus sain d'accueillir les gens qui partent en famille, qui n'ont rien à voir avec la guerre, qui ne font pas la guerre, mais qui la subissent, parce qu'il y en a beaucoup, de ne pas attendre ceux qui font la guerre pour les accueillir après.
Oui, c'est intéressant. Alors justement, je vais répondre à ça, parce qu'on est au cœur de la réflexion sur le droit d'asile, avec ça, cette question-là. J'avais oublié de dire que toute la région autour du Proche-Orient, il y a une déstabilisation politique aussi vis-à-vis de la scène internationale, parce que c'était la Syrie qui définissait largement la politique étrangère du Liban. Et notamment le fait que la Syrie soit en crise grave a déstabilisé aussi les pays voisins, dont notamment le Liban, dans leur politique étrangère. Mais c'est un autre sujet. Mais pour la question des réfugiés, d'abord le droit d'asile définit dans d'ailleurs sa sagesse le réfugié par la persécution individuelle. Mais on ne prend pas parti, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas si c'était le défenseur du pouvoir ou si c'était quelqu'un qui était opposant. Ce qu'on va regarder, c'est la réalité de la persécution ou la réalité de la crainte fondée de persécution. Donc le policier qui a combattu contre son peuple, si j'ose dire, s'il a été persécuté après ou avant, etc., aura les mêmes chances d'obtenir l'asile que quelqu'un qui a fui son pays, qui était sous les bombes. Donc, de ce point de vue-là, on a eu en France, mais dans tous les pays qui donnent l'asile, les deux cas de figure, et qui, s'ils ont été persécutés, ont le droit d'asile ou ont des chances d'avoir le droit d'asile. Donc ça, c'est un élément. La question que je me posais, c'était est-ce qu'on peut donner l'asile collectif ? C'est ça, c'est ce qu'on va faire en réalité. Et ça, c'est pas tout à fait la Convention de Genève. On l'a fait pour les Vietnamiens, on va le faire là pour les Syriens. J'ai infiniment de respect pour toutes ces familles syriennes qui viennent avec leurs enfants dans des conditions dramatiques, qui ont tout perdu, etc. Mais on est dans une autre approche que la Convention de Genève qui regarde la situation individuelle. Ils sont tous menacés, persécutés, déstabilisés, mais on n'est plus dans l'approche de la Convention de Genève, on est dans l'approche d'une réponse globale, politique, à une situation de crise. Et on va appliquer, on va donner plus rapidement le droit d'asile à ces gens-là, je m'en réjouis, mais ce n'est plus tout à fait l'esprit de la Convention de Genève qui est une approche individuelle de la persécution. On peut s'en féliciter ou pas, mais je constate simplement.
Il y a quand même des tribunaux qui peuvent rechercher ceux qui ont commis des...
Bien sûr, absolument, mais on pourra, bien sûr, ça c'est encore un autre sujet, mais... Les mêmes personnes, enfin, du moment qu'on a été persécuté, c'est ça la définition, on a pris aussi bien des gens qui étaient persécutés par des régimes d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou par des régimes tortionnaires religieux ou pas religieux, etc. On ne prend pas parti dans cette approche, on examine la persécution. Oui, dans des cas extrêmes de crimes contre l'humanité.
Oui, avant de poser ma question rapidement, je voulais juste renvoyer à une émission de Tommy Nathan, qui est un ethnopsychiatre. Il y a quelques jours, en fait, j'avais été un podcast sur France Culture ou France Inter, et qui évoquait la question de la manière de regarder, entre guillemets, le migrant, et de le regarder pas simplement à travers la question de l'assimilation, mais de le regarder plutôt à partir des capacités qu'il porte. Et ça me renvoie à une question en tant qu'universitaire sur votre connaissance éventuelle d'université en France ou à l'étranger qui aurait déjà eu des démarches, je dirais, d'accueil, de valorisation justement des gens, de leurs capacités, que ce soit en termes de valorisation d'acquis de ces personnes, en termes d'intégration. La question a été posée chez nous au niveau de l'université, de nous dire comment est-ce qu'on peut éventuellement accueillir des gens, comment on peut s'adapter, et on est face à cette question pratique, et votre expérience peut nous aider.
Alors, pour ce qui est de Paris, et notamment de la communauté universitaire, comme on appelle ça maintenant, à laquelle j'appartiens, qui regroupe plusieurs universités, puisqu'on a chez nous Paris 3, Paris 5, Paris 7, Sciences Po, les Langues Eau et Paris 13, il y a une motion qui a été signée pour s'engager faire un effort d'insertion et éventuellement de recrutement d'universitaires notamment qui viennent de ces pays en crise et notamment de Syrie pour les introduire dans les métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur, pour faciliter l'accès à l'inscription des étudiants, etc. Donc il y a une démarche qui a été faite dans ce sens, qui avait déjà eu lieu il y a quelques années pour les Algériens, pour la France. Dans la crise algérienne de 1995, on avait beaucoup d'universitaires, de journalistes qui étaient contre l'islamisation du pays, et donc il y a eu un petit effort, mais limité, mais un petit effort pour intégrer sur dossier, toujours, des universitaires algériens qui craignaient pour leur vie en Algérie et qui ont été réinsérés en France. On a également d'autres précédents en la matière. Ça a été fait aussi pour le Liban dans les années 90. Il y a eu ce qu'on appelait des listes rouges à l'université, au CNRS, pour insérer des cerveaux, des universitaires, des très qualifiés, venant du Liban. Au lendemain de la crise iranienne également, en 81, il y a eu quelques éléments en la matière, notamment pour des chercheurs iraniens. Donc il y a toujours quelques mouvements. Là, la solidarité en termes de texte, pour l'instant on n'en est que là, la signature date de la semaine dernière, a été forte. Ça a été très soutenu, très signé. On va voir ce que ça va donner sur le plan de l'engagement à insérer des chercheurs, des universitaires, des étudiants dans le groupe, si j'ose dire, des universités qui font partie de Paris Cité.
Trois petites remarques.
Attends, il y avait Laurent, tu avais déjà la parole, il y a une question là, je crois.
Elle n'a pas de micro, alors.
Oui.
Juste trois petites remarques. Bien sûr, on a le conseil partenarial avec la ville de Mulhouse et le représentant de l'évêque. Le représentant de la préfecture qui était là.
Pas pareil.
Il nous a parlé des réfugiés et il nous a dit que. Il interpellait les CADA pour qu'effectivement les familles ou les personnes qui étaient là depuis longtemps dans les CADA puissent sortir des CADA pour libérer des places pour les réfugiés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les déboutés, et notamment la deuxième remarque, c'est que les déboutés vont être encore plus oubliés. Et puis aussi, je dirais la troisième remarque, c'est aussi tous ceux qui sont. Malheureusement, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, au chômage en France, depuis de nombreuses années, qui n'ont pas de qualification, etc. S'ils votent Front National, c'est parce qu'ils sentent effectivement qu'ils sont oubliés et ils craignent de l'être encore plus aussi.